Allez, on va enchaîner avec une nouvelle table ronde et de nouveaux invités. La nouvelle table ronde s'annonce passionnante également. Le thème de la table ronde, développer un habitat social et environnemental pour les entreprises grâce à nos deux directives, CRSSD et CSDD. On appelle nos invités, Alessandro Bertoldi, directeur exécutif Institut Milton Friedman. Alessandro, j'appelle également Maître Clément Tavenard, j'appelle Xavier Poulet-Goffard, j'appelle Madeleine Gilbert. Vous êtes obéissante, hein, vous attendez que je vous appelle pour monter sur scène. Hein. C'est bien, c'est très scolaire. Madeleine Gilbert, secrétaire nationale, CFE, CGC, Xavier Poulet-Goffard et du cabinet Orcom, expertise comptable, audit conseil. Mettez-vous à côté de moi. Ça vous dérange pas? Parfait. Vous voulez changer d'avis? C'est sûr? Vous n'êtes pas bien avec nous? Bon. Ah, moi, je suis parfaitement bien. Non, non. Pourquoi? Est-ce que tout le monde est là? Bonjour. Allez. Et ça débat, et ça débat. Ça veut dire que les débats vous passionnent, et ça, c'est tant mieux, et c'est formidable. On va commencer avec vous, Madeleine. Commencez avec vous. Vous êtes à ma gauche. Vous êtes, en plus, la seule femme sur cette table ronde, hein, pour le moment, donc priorité, c'est important. On est gentleman aujourd'hui. L'habitat social et environnemental, c'est un concept émergent, en quelque sorte. Hein. Et ça, vous avez beaucoup insisté là-dessus. Et vous insistez beaucoup là-dessus. Et vous appuyez sur le petit bouton. Et voilà. Vous voulez la députer.
Super. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis secrétaire nationale confédérale dans un syndicat qui est la Confédération des cadres. Et Confédération française de l'encadrement, plus couramment appelée CFE-CGC. Et donc, je m'occupe de transition environnementale, écologique, RSE et développement durable. Donc, effectivement, cet habitat social, environnemental, et j'ai envie de dire aussi, il va plus loin, hein, puisqu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui de CSRD et de CS3D, on peut aussi dire qu'il va être sanitaire, qu'il va s'occuper des droits humains. Donc, comment fait-on, hein, c'est la vraie question. Donc, j'étais surprise, hein, par ce titre de table ronde, hein, parce que c'est innovant.
Ah, mais
c'est un nouveau concept.
On n'est pas à une surprise près, vous savez.
C'est un concept nouveau. On ne peut pas dire émergent, mais complètement nouveau. Donc, j'ai essayé d'articuler mon propos autour qu'est-ce qu'aujourd'hui ça veut dire, cet indicateur. C'est un indicateur financier, hein, qui mesure la performance, le profit généré dans l'activité habituelle de l'entreprise et qui reflète la rentabilité en mettant de côté le poids, la dette, l'impôt et tout ça. Ça permet d'avoir la mesure de la capacité financière de l'entreprise. Mais il n'y a pas de normes environnementales aujourd'hui sur cet indicateur. Et comment faire demain pour intégrer justement la CSRD, la CS3D? Et pour faire en sorte que la valeur dans l'entreprise reflète son engagement environnemental, sociétal, pour donner une valeur nouvelle. Donc, on a parlé de double matérialité, justement, qui permet de challenger les entreprises entre elles en ayant des indicateurs identiques. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à construire? Donc c'est à construire une nouvelle norme comptable. Quand je vois la Banque de France va sortir un indicateur climat. Donc voilà, donc pourquoi ne pas intégrer aussi cet indicateur? Voilà, donc on a vu que la CSRD avec ses 4 ou 5 piliers, comme le disait Didier Kling tout à l'heure, 4, plus tous ces indicateurs, qu'est-ce qu'on prend dans tout ça pour challenger et permettre aux financiers, hein, qui vont apporter les capitaux pour le développement des entreprises, pour rémunérer et comprendre leur action dans le climat, les droits humains. Et moi, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais je fais un petit focus sur le social, les droits sociaux. On a parlé de droits humains, on n'a pas parlé non plus, je n'ai pas entendu le mot de conditions de travail, mais ça rentre.
On l'a abordé un petit peu, mais très rapidement. Mais juste un petit peu, mais on l'a abordé quand même.
Tout, voilà.
Mais pas assez pour vous, mais vous pouvez le faire.
Mais c'est très important aujourd'hui.
Évidemment.
On a parlé d'humanité, donc l'humanité, ce sont aussi les conditions de travail, la manière dont on gère les normes sociales. Donc les normes de l'OIT aujourd'hui sont très importantes et souvent oubliées, et elles font partie d'une humanité justement dans la considération des salariés
et
des collaborateurs. Tout à fait, je vous en remercie. Donc un nouvel instrument de mesure, peut-être aussi des outils de modélisation à trouver, des dispositifs de gestion des risques peut-être à adosser à tout ça. Moi, je voulais dire aussi que j'ai entendu que la CSRD, pourquoi aussi la RSE, bien effectivement, c'est aussi une déclinaison de la RSE, la CSRD, comment on va la prendre en compte. Moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. C'est aussi un challenge par rapport à la chaîne de valeur étendue, et prendre en compte les normes sanitaires, sociales, les conditions de travail et environnementales. Donc je pense que les économistes ont un vrai challenge, et nous, en tant que partie prenante, puisque nous sommes partie prenante dans cette CSRD, puisque les partenaires sociaux devront, on devra les consulter et non pas leur proposer un document sur table, mais ils devront être consultés sur cette directives dans les CSE normalement. Alors moi, je voulais dire que le climat, l'environnement, c'est quand même pas une chose nouvelle. Il y avait la loi NRE qui date, alors j'ai toujours un petit décalage, de 2011 ou 2001. 2001, voilà, 2001, c'est bien ça. Ça fait quand même plus de 20 ans où on parlait des attributions environnementales qui n'ont pas été mises sur table et qui ont été un peu occultées. Peut-être d'une manière générale, parce que c'était un sujet complètement novateur. Après, on est passé à la loi Pacte, avec l'entreprise à mission. Je ne vais pas vous faire un historique ni un cours magistral, mais c'est pour dire qu'il y avait déjà des choses qui existaient. L'entreprise à mission, la raison d'être, donc ça a beaucoup tangué, 2-3 ans sur l'entreprise à mission et la raison d'être. Et puis, on a, bien sûr, le devoir de vigilance, mais on est arrivé à la loi Climat et Résilience, avec les nouvelles attributions environnementales données dans les CSE. Donc voilà, c'est pas une découverte. Maintenant, je pense qu'il faut passer le degré, le cap au-dessus pour trouver d'une manière économique comment vraiment refléter l'entreprise avec les nouvelles normes qui vont être édictées.
Allez, on poursuit le tour de table. Maître Clément Tavenard. Il faut que vous coupiez le micro. Oui. Il y a une règle.
Bonjour à tous, donc je suis Clément Tavenard, je suis avocat en fusion, acquisition et droit boursier. Je suis très heureux d'intervenir devant vous aujourd'hui. Si je devais commencer mon propos, je devrais dire que l'arrivée de la CSRD, CSDD, c'est la fin du pipeau.
C'est une bonne introduction.
Permettez-moi d'être un petit peu provocateur, merci.
Au moins ça suscite des réactions.
Pardon, provoquer, mais...
Oui, mais si on vous coupe le pipeau, ça va être plus compliqué.
Ah oui, mais c'est normal, qu'un syndicaliste attaque un avocat en MNS...
ça y est, commencez pas le débat.
C'est des idées reçues.
Ça va rappeler mon métier sur CNews. Je vous en prie.
C'est vrai, vous avez raison. Et donc oui, la fin du pipeau, pourquoi ? Puisque pendant très longtemps, vous aviez eu dans les grandes entreprises françaises, étrangères, vous aviez la déclaration de performance extra-financière. Bon, et c'était un petit peu fourre-tout. Celui qui s'y collait dans les grandes entreprises, celles et ceux pardon, qui s'y collaient, avaient un peu l'impression d'être punis, ne savaient pas vraiment quoi mettre. Et puis surtout, l'autorité des marchés financiers qui après relisait ce document disait, au bout d'un moment, année après année, arrêtez de nous raconter, c'est pas clair, c'est pas précis, on ne sait pas où vous voulez en venir. Bref, il y a un moment, il faut que cela cesse. Et l'arrivée de la CSRD, de la nomination d'un expert qui sera en charge de certifier les informations qui seront communiquées, vont changer cette approche. Et l'arrivée de l'application de standards va aussi changer cette approche. On va pouvoir avoir une matérialité dans l'analyse. J'aimerais aussi illustrer mon propos avec des faits un peu plus matériels, concrets, du vécu. J'étais le genre intervenant dans le cadre d'un conference call avec plusieurs fonds d'investissement. Ils envisageaient différentes pistes d'investissement et des cibles. Vous avez aujourd'hui des directeurs d'investissement dans les fonds d'investissement. si l'entreprise en question a un bilan énergétique catastrophique, ils n'y vont pas, même s'il y a un EBITDA qui est compétitif. C'est-à-dire, dans la pétrochimie, vous avez une entreprise pétrochimique à vendre aujourd'hui en France, bon courage, vous n'y arriverez pas, vous ne trouverez personne, même si elle est compétitive.
Et donc le
résultat de tout ça, c'est qu'en fait, les entreprises doivent investir et elles doivent diminuer leur gaz à effet de serre, elles doivent se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Alors on peut croire encore une fois que c'est du pipeau, mais non, vous avez des entreprises chimiques qui, grâce à l'application des investissements très lourds, notamment Total a pu le faire, excusez-moi de citer, c'est une très grande entreprise et je ne travaille pas pour eux, mais ils l'ont fait sur un certain nombre de sites. Vous allez à Fos-sur-Mer aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'investissements. C'est clairement le choix fait par tout un ensemble d'entreprises intenses en matière de pollution de se réinventer pour, entre guillemets, revaloir quelque chose sur le marché. J'aimerais enfin dire une dernière chose sur l'application de ces normes. Prenez l'hypothèse de deux entreprises. Une entreprise française qui applique la CSRD et demain la CSDD, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros d'EBITDA. Puis vous prenez une entreprise chinoise ou américaine qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 millions d'euros d'EBITDA. Vous allez me dire, elles valent la même chose. J'ai envie de vous dire non. Si demain j'ai une entreprise française qui, pour faire tourner son usine, elle a du solaire et du nucléaire et qu'elle applique les règles élémentaires du droit du travail, et que d'autre côté vous avez une entreprise aux États-Unis ou en Chine qui brûle du gaz de schiste et n'applique pas les règles élémentaires droit humain, aujourd'hui un investisseur, il n'ira pas.
Ok. Alors, Xavier Pipeau, hors notre Pipeau. Allez-y. Vous coupez ? Vous avez coupé ? Jour, nuit, depuis ce matin,
allez. On y est. Enchanté, merci de votre invitation. Tout d'abord, donc, moi je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Je suis également chercheur en économie internationale à l'université de Nice. Je suis directeur général d'un groupe d'expertise et de conseil qui s'appelle Orcom et qui est implanté en France et à l'étranger. Un groupe de 2000 personnes. En réalité, l'EBITDA... si on revient à notre
c'est
sujet...
C'est la thématique. Je préférais qu'on parle de ça plutôt que de la reproduction des hannetons, si ça ne vous dérange pas.
Mais ça me va très bien.
Très bien, merci.
Est en réalité un indicateur qui sert à mesurer trois choses. La performance, la compétitivité et l'attractivité. On vient de dire jusqu'à présent que tout ce qu'on a mis en œuvre et tout ce qu'on est en train de forcer les entreprises à documenter fait partie de l'immatériel, du monde de l'invisible, du monde de l'incorporel. L'enjeu avec l'EBITDA social, c'est pour l'instant un territoire en friche, une feuille à écrire. C'est en réalité de rendre visible cet invisible, c'est de chiffrer cet inchiffrable, c'est de le rendre comptable. Puisque à partir du moment où vous le rendez comptable, vous le rendez intangible. Ça veut dire qu'il n'y a pas simplement que les lecteurs et les rédacteurs des rapports financiers, des rapports carbone qui sont capables d'évaluer l'information, il y a l'ensemble des parties prenantes, y compris le citoyen lambda. Puisque je rappelle simplement que dans un bilan comptable, l'information est évidemment à destination des parties prenantes directes, et en l'occurrence, un EBITDA, il sert d'abord à attirer des investisseurs, il ne sert pas aux détenteurs du capital pour se verser un dividende, eux ont le résultat net pour cela. En revanche, les bilans servent aussi à des collaborateurs et plus généralement au monde du travail pour aller vers une entreprise. Il sert aussi à une Banque de France pour évaluer et donner une notation à une activité économique. Il sert à toute une série de parties prenantes. Donc l'enjeu en réalité avec cet EBITDA social et environnemental, c'est justement de rendre matériel toute cette démarche que les entreprises sont en train de faire. J'ajoute une dernière chose, mais on y reviendra sûrement. On a parlé durant les débats précédents, la table ronde précédente et puis ce matin, de l'extraterritorialité, de la compétition internationale. On est dans une conférence autour de l'Europe, donc c'est aussi un rapport de force, un rapport de concurrence, un rapport d'amitié aussi et d'échange culturel, mais sur le volet économique, c'est aussi un rapport de concurrence. L'enjeu de la création d'un EBITDA social et donc plus profondément d'une norme comptable sociale et environnementale, c'est de donner les moyens à nos entreprises de valoriser leurs investissements. Ce que les entreprises chinoises et les entreprises américaines n'auront pas forcément. J'intègre ça dans un courant de transformation comptable, économique et financière qui a 40 ans d'âge et qui a eu différents volets d'évolution. Notamment dans toute la transformation de l'économie internationale, qui ont pris principalement deux choses, les spécialistes le sauront peut-être, c'est la diffusion des normes internationales de comptabilité, les fameuses IAS, IFRS, qui prennent pour fondement les normes comptables américaines. Et ça a donné un pouvoir énorme aux États-Unis. Ça a participé de leur pouvoir. Ça a participé également à la fluidification de l'économie internationale aux normes américaines. Deuxième chose, ce sont les normes de prix de transfert, qui sont d'abord des pratiques d'optimisation fiscale pratiquées par les grandes multinationales et qui ont ensuite été codifiées par les Américains, mais surtout par l'OCDE. L'Europe a repris la main sur les normes de prix de transfert et l'Europe a tellement repris la main qu'il a dicté ces nouvelles normes à l'ensemble du monde économique international, y compris effectivement la Chine, mais aussi les États-Unis. Évidemment, on le disait tout à l'heure au détour de l'exemple sur les terres rares, les Chinois ont repris les choses à leur sauce, parce que, en bons commerçants qu'ils sont, ils reprennent les choses à leur sauce pour de toute façon rentrer dans les marchés, c'est leur enjeu. Mais sur les normes de prêt de transfert, l'Europe a marqué des points significatifs. Et nous sommes indétrônables en la matière, nous avons posé la norme. Qui pose la norme gouverne. L'enjeu des normes internationales de protection du social et de l'environnement à travers des normes comptables, c'est la prochaine étape, à mon sens, et c'est une étape décisive.
Vous êtes d'accord avec ça, Madeleine ?
Je vais couper.
Oui, couper. Merci.
Simplement, effectivement, c'est tout à construire, c'est tout à évaluer. Et pour moi, c'est de prendre déjà l'indicateur financier tel qu'il est aujourd'hui, hein, c'est ce que je mettrai en place, et de m'adosser aux indicateurs ESRS de la CSRD, de construire une grille en fonction... voilà, et puis en déclinant avec mes filiales, droits humains, droits sociaux, etc., de côté tout ça, et de présenter via mes commissaires aux comptes, je ne suis pas une financière extrême, hein, mais voilà, mes experts pour présenter aux financiers et aux parties prenantes où j'en suis, et d'évaluer et d'avoir des critères, voilà, des coefficients prépondérants par rapport à cet EBITDA. Pour savoir et pour pouvoir et avoir un spectre voilà identique pour toutes les entreprises du même secteur pour pouvoir me référencer et savoir où j'en suis et comme ça on arriverait peut-être à déjà avoir une ligne une perspective pour le futur en attendant et je pense que aussi la data et l'intelligence artificielle permettra justement de contribuer à ce sourcing. Parce que c'est le sourcing qui va poser aussi un gros problème.
Matin.
Oui, mais le sourcing. Alors, il y a deux entreprises en France hein, qui sont capables de le faire. Hein. Il y a deux start-up qui le font très bien aujourd'hui, hein, qui peuvent tout analyser, tous les documents de votre entreprise. Voilà, c'est après à mettre en musique.
Clément, réaction.
Réaction partagée parce que il ne faut pas penser que les EBITDA vont se mélanger. Il faut avoir une double approche à chaque fois. L'EBITDA financier va rester le même. Simplement, l'approche de la CRD, c'est d'arriver avec un deuxième EBITDA social, environnemental j'ai oublié le troisième, droit humain, et de pouvoir en fait analyser les deux performances obtenues. Ça, je crois qu'il faut bien garder en tête la méthode à retenir. Il ne faut pas mélanger carottes et salade. Mais et donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, vous allez arriver à une double analyse, potentiellement une double contradiction. Je vais avoir une entreprise performante financièrement, c'est-à-dire qu'elle est rentable chaque année, elle a un très bel EBITDA financier, mais je vais avoir une entreprise qui, au regard de mon EBITDA social et environnemental, ne vaut pas autant d'argent que ça, voire peut-être fait même perdre de l'argent parce qu'elle a une réputation mauvaise, elle risque d'avoir une mauvaise réputation du fait de ses émissions de gaz à effet de serre, du fait de la localisation de ses travailleurs où les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. Et donc après, ce sera aux investisseurs et en fait, in fine, aux consommateurs de pouvoir opérer.
Question dans la salle. Monsieur, micro, ici.
Merci. J'aimerais réagir un peu sur les propos Pipo.
Parce que y a ça, aussi, j'étais sûr que ça allait vous faire réagir.
Absolument. Il y a aussi des entreprises qui, jusqu'à présent, sont tout à fait conscientes de la nécessité de produire un rapport RSE qui soit réel et qui ne soit pas biseauté. Surtout les petites entreprises, d'ailleurs, qui sont peut-être plus proches de la réalité que les très grandes entreprises qui ont les grands moyens pour bien communiquer. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une norme que ce sera la fin du pipeau, parce qu'il y a aussi des gens qui vont considérer qu'il faut remplir des cases et on sera tranquille avec ça. On embauchera deux CDD et on leur dira « débrouillez-vous pour qu'on soit certifié ». Bon, c'est un petit peu comme la qualité il y a quelques années pour les plus anciens. « Débrouillez-vous pour qu'on soit ISO et tout ira très bien. Nous, on continue à faire ce qu'on a à faire. On a du travail. » Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur la partie humaine. Un petit exemple, et je pose ma question. Un petit exemple, c'est par exemple la Société nationale de secours en mer qui publie dans son rapport annuel la valeur du bénévolat. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est un coût qui est évité, évidemment. Et ça peut être également une valeur. Alors, la valeur à la barre du tribunal sera zéro. Mais ça fait partie, est-ce que vous ne pensez pas, donc la question, est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, c'est une chance pour des entreprises européennes que de pouvoir avoir un droit de faire des affaires en Europe parce qu'elles seront certifiées et que celles qui ne seront pas certifiées ou pas capables de se certifier n'auront pas le droit de faire du business en Europe et par conséquent, la valeur de cette entreprise sera bien, bien plus importante parce qu'elle a accès au marché, un peu comme aujourd'hui dans le médicament. Si vous avez une AMM, vous faites du business. En Europe, c'est compliqué, mais au moins, vous faites du business. Donc, qualité, en fait, des certifications, est-ce que la valeur pourrait être simplement d'opérer en Europe ?
Très bonne question, merci de l'avoir posée. Qui répond en premier ? Madeleine, d'abord, et on fait un petit tour de table. Ok, Madeleine.
Ben, j'ai envie de dire que la certification permettra une visibilité. Et quand on est visible et que ça soit affiché, aujourd'hui, tout est accessible. Et donc, avec justement les outils que l'on connaît, les nouvelles se propagent très vite. Et donc, les activistes sont toujours à l'affût des mauvaises pratiques. Et une entreprise qui sera vertueuse aura effectivement la capacité de faire plus de business. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Et permettra d'avoir, comme on l'a beaucoup dit, la réputation réputationnelle. Voilà. Et ça sera accepté et acceptable pour le consommateur. On a aussi parlé de consommateur. Voilà. Et donc, c'est lui, à la fin, qui fait le business, de toute manière, et qui aura le droit de regard. Et si les entreprises sont, je dirais, assez communicantes, elles valoriseront ces labels. J'espère que ça sera avec des labels, pourquoi pas, pour faire leur business et monter en compétitivité, rentabilité. Voilà.
Clément.
Oui, pour vous répondre absolument, on ne part pas d'une feuille blanche. Je rappelle qu'il y a l'existence des fonds à impact, des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans les sociétés qui accordent beaucoup d'importance à ce type d'initiative. Et je suis persuadé que la société en question que vous citez, où le bénévolat est mis en avant, que le climat social doit y être très bon, et qu'il y a des questions qui ne se posent pas, des problèmes qui n'existent pas, là où d'autres sociétés beaucoup plus performantes financièrement doivent avoir un climat social beaucoup plus complexe à gérer. Donc effectivement, les sociétés qui feront le choix de prendre à bras le corps ces sujets-là s'éviteront tout un ensemble de problèmes et seront même très, très fortement encouragés à les valoriser, clairement.
Xavier.
Oui, pour compléter les propos qui viennent de vous être donnés, effectivement, il y a des méthodes, pour rester sur la norme comptable et financière, il y a des méthodes qui ont été étudiées et élaborées pour valoriser un triple capital. Capital financier, qui est aujourd'hui la règle, et puis le capital humain et le capital naturel. Voilà, c'est la méthode CARE, alors qui est assez en vogue, évidemment, dans les milieux, on va dire, altermondialistes, presque anticapitalistes en tout cas. Mais puisque nous parlons, nous l'avons évoqué très brièvement, je crois, ce matin, un capitalisme vertueux, un capitalisme vert, un capitalisme qui ne détruit pas, effectivement, cette valorisation des différentes formes de capitaux humains, naturels et financiers, effectivement, est un, à mon avis, un enjeu structurant. Et c'est tout l'enjeu d'une forme d'EBITDA sociale et environnementale. C'est de transférer au monde marchand des valeurs qui, aujourd'hui encore, sont quand même très en vogue dans le monde non marchand, mais qui ont parfois du mal, à part dans le phénomène de greenwashing, à se transférer dans le monde marchand. C'est-à-dire comment rendre bankable, valorisable, cash flowisable, une valeur qui aujourd'hui ne donne pas du PNL sonnant et trébuchant.
Et vive le français.
Exactement.
Ça, je dis rien. Oui. Vous êtes à l'Assemblée nationale, mon cher Xavier. On doit défendre la langue française. Colbert. Vous souhaitiez apporter une petite précision et puis je me tourne vers monsieur. Il y a une autre question derrière, après monsieur ? Oui ? Ok. Allez-y, madame.
Oui, tout à fait. Comme l'a dit monsieur, le modèle CARE, c'est comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement hein, avec la triple matérialité, c'est-à-dire que ça va au-delà de d'avoir un impact positif sur l'environnement, mais de regarder tout ce qu'on a consommé comme ressources, matières naturelles, etc., et de compenser et de réinjecter dans l'économie tout ce qu'on a consommé pour faire du business. Donc c'est encore un autre concept, mais c'est intéressant. Voilà, donc c'est quelque chose à avoir en tête, et je pense que dans les années futures, on arrivera certainement à ce modèle. Mais c'est un changement de modèle pour les entreprises, de toute manière.
Monsieur qui patiente oui, depuis 10 minutes, pardonnez-moi.
Non, je vous en prie. J'ai une question pour madame, enfin, c'est plus une remarque pour madame Gilbert. Vous avez mentionné la nécessité de mesurer les impacts sociaux et la difficulté de mesurer ces impacts. Bon, moi qui suis de l'économie sociale et solidaire, on est confronté évidemment à ce problème directement, parce que finalement, l'impact de l'économie sociale, c'est un impact social ou un terme de cohésion sociale. On a beaucoup de mal à le mesurer parce que ce n'est pas monétisé, ce n'est pas monétisable. Donc, pour votre information, la Commission européenne a fait un plan d'action sur l'économie sociale et solidaire et a comme objectif, donc c'est en train de se mettre en place, d'élaborer une méthodologie de mesure de l'impact social et une méthodologie la plus uniformisée possible. Parce que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une foultitude de moyens de mesure, et d'ailleurs, les boîtes de consulting en profitent pour compliquer les choses.
Et donc la il n'y a pas de boîte de consulting dans la salle, je dis ça.
Je ne sais pas, je m'excuse auprès d'eux. Bon, ils font leur business. Hein, mais,
oui, je comprends.
Mais la commission a décidé d'essayer d'uniformiser. C'est l'OCDE qui est en train de préparer un rapport justement pour faciliter la mesure de l'impact social, ce qui peut être tout à fait utile pour ces deux directives. Voilà, c'était une remarque.
Une réflexion sur la remarque de monsieur ou pas du tout ? Petit micro peut-être, ça sera mieux.
Monsieur a raison, l'économie sociale et solidaire est complètement dans le schéma, en dehors de tout EBITDA, etc., mais de retrouver, comme le disait aussi madame qui a fait la synthèse, un capitalisme humain. Enfin, quelquefois, je pense que c'est un peu un oxymore, capitalisme humain. Mais voilà, mais de remettre les choses, voilà, de recentrer l'humanité justement dans la comptabilité et dans les entreprises, parce que comme le disait aussi monsieur, c'est facile d'embaucher deux stagiaires, je fais exprès hein, d'être un peu, voilà, et de leur dire, bah écoute, il faut nous faire quelque chose de bien pour
histoire de se donner bonne conscience.
Voilà, et puis comme ça on sortira notre bilan, enfin tous nos pièces comptables, on sera certifié, tout ira bien, et puis on pourra donner, mais derrière, voilà, mais c'est pas louable, mais c'est ce que je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout se sait, et de toute manière tout se sait, même sans internet, tout se savait, et il y a des lanceurs d'alerte aujourd'hui qui sont avec les 25 critères discriminatoires qui sont passés à 27 parce que justement on les protège beaucoup plus, il y a une loi, je l'ai oublié le nom de cette loi, mais qui pourront alerter. Mais moi, je ne suis pas activiste, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il faut qu'il ait la réalité de ce qu'il a en face, quoi. Et même les salariés. C'est-à-dire que toutes les parties prenantes, et même les syndicalistes, ont un droit de regard et doivent s'investir dans tout ce qui est droits humains, droits sociaux, etc., et avoir une perspective vertueuse pour le business des entreprises.
Madame.
Oui, je voulais juste ajouter, alors je reprécise pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, que je suis enseignant-chercheur à l'IAE de Paris.
Et vous êtes très active, et je vous en félicite.
Je ne suis pas une activiste, mais...
C'est pas ce que j'ai dit, que vous étiez très dynamique.
Merci. Je voudrais ajouter, parce qu'on parle depuis ce matin de la CSRD et puis de la CS3D, que ce sont des normes publiques et des normes étatiques, donc gouvernementales. Mais en fait, si on va dans l'opérationnel, ce qui est la question des entreprises toute la journée pour rester compétitive et puis n'avoir pas seulement des obligations de résultats, mais des moyens de se protéger et de valoriser. C'est pas simplement qui pose la norme gouverne, parce que là, pour le moment, c'est ce qu'on essaie de faire. Quand on va dans la granulométrie, et là, les Chinois sont très forts, c'est qui tient la norme, mais en termes de normalisation, tient le marché. C'est-à-dire qu'après, dans l'opérationnel, il faudra aller effectivement sur des référentiels. Alors, vous avez cité le référentiel CARE, mais il y en a plein d'autres. Et le problème, là, on n'est plus très solide. On a peut-être quitté l'effet opposition soft law, hard law, en allant sur quelque chose de plus dur, mais on n'est pas encore dans l'efficacité totale. Les démarches RSE volontaires, on a vu les limites. Et ce qui va être la majeure partie de la guerre, de la bataille des normes, notamment entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, c'est qui va imposer ces fameux référentiels. On a eu l'article d'Emmanuel Faber là, sur le fait qu'on était dans une triple illusion. Mais si on est sur une trajectoire et une ambition, il faut maintenir le cap sur la double matérialité et le traduire en véritables normes qui, derrière, créeront les labels RSE qui seront reconnus dans nos marchés et la commande publique. Et là, on en est encore très, très loin. Donc, il ne faut pas lâcher la barre. Il faut bien tenir le gouvernail parce que jusque dans ces normes-là, là, on est attendu au tournant par des pays qui sont non pas dans les principes, mais dans la pratique et beaucoup plus forts que nous.
Vous voulez réagir tout de suite ou on prend une autre question ? Monsieur.
Ma question, c'est à Madeleine et Clément. Vous dites assez clairement que malgré le processus de certification qui est prévu dans la CSRD, un certain nombre d'entreprises vont pouvoir passer entre les mailles du filet. Est-ce que vous pensez qu'il faut assortir la CSRD de sanctions ?
Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Qui se lance ? Allez-y. Il y a un micro d'allumé, là ? C'est bon, ça marche.
J'ai envie de vous répondre que la sanction, elle existe déjà un petit peu. Quand vous voyez dans les grandes banques européennes les sommes allouées à des investissements d'irresponsables, les entreprises qui vont mentir ou jouer avec ces règles-là, elles vont avoir un accès beaucoup plus compliqué au crédit. C'est déjà le cas aujourd'hui. Hein. C'est quelque chose de... C'est toujours assez intéressant d'y assister, entre guillemets, en direct pendant les réunions. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un de banque très connue de la place qui vous dit « Non, mais moi, je n'y vais pas là-dedans, je ne sais pas ce qu'ils font ». Donc il y a déjà entre guillemets une sanction du marché, mais c'est une sanction soft, c'est pas la sanction du entre guillemets une décision de justice rendue au nom du peuple français. Vous avez entièrement raison, mais je pense que vous l'avez déjà évoqué aujourd'hui. La cour d'appel de Paris a quand même ouvert une chambre dédiée à ces sujets-là récemment, et ça va nécessairement amener à tout un ensemble de contentieux.
Madeleine, réponse.
J'ai une réponse complémentaire que je partage avec mon collègue. C'est aussi la réponse des salariés, c'est-à-dire on voit bien aussi, enfin pas que les jeunes, hein, mais même les moins jeunes qui veulent plus travailler dans des boîtes, dans des entreprises qui ne respectent pas certaines normes, qui voient certains comportements déviants, on va dire, et qui ne veulent pas s'investir. Donc la sanction, moi, d'une manière générale, je ne suis pas pour les sanctions comme ça. Je pense que c'est la conscience qui doit apporter petit à petit, grâce à des lois, à des normes, qui doivent faire monter en puissance l'esprit, on va dire. Mais les sanctions, elles sont là aujourd'hui, aussi bien les financiers qui ne veulent plus financer des activités qui brunes, hein, ou raides. Voilà. Rouge, voilà.
Je sais la couleur. Hein.
Mais ouais, c'est ce qui se dit hein, dans le milieu. Et puis, les salariés qui veulent pas, qui veulent plus s'investir parce que ça leur plaît pas, parce que ça correspond pas à leurs idéaux.
Merci Madeleine. Le mot de la fin peut-être Xavier. Un petit peu de synthèse.
Écoutez, merci de me laisser ce mot de la fin. Non, effectivement, je rebondissais sur Madame qui. Je ne saurais dire mieux, mais il y a un vrai effectivement enjeu sur le côté opérationnel. Je pense que là, on est sur le cadre général qui est extrêmement ambitieux aussi. L'enjeu de ce caractère opérationnel, en réalité, il est dans la compétition internationale. Si on veut absolument transférer ces normes par le truchement du commerce international, par le truchement des échanges, par le truchement des filiales étrangères implantées en France, il faut qu'on devienne extrêmement opérationnel. Si on veut que nos entreprises européennes soient plus compétitives, mieux valorisées par les fonds d'investissement, mieux valorisées et valorisent mieux leurs actions et leurs investissements long terme, effectivement, il faut être beaucoup plus opérationnel. Avoir donc une lecture beaucoup plus directe de ces informations. Je crois qu'un intervenant le citait soit tout à l'heure, soit ce matin. Les rapports sont quand même très denses. Et donc évidemment, quand vous prenez un rapport, un bilan, je suis expert comptable, vous me pardonnerez d'y revenir, il y a 90% de chiffres et 10% d'écrits. Lorsque vous prenez un bilan durabilité, vous avez 90% d'écrits et 10% de chiffres. Ça veut dire que celui qui va narrer le réel va pouvoir dire exactement ce qu'il veut dire de l'entreprise. Alors que le chiffre a cette vertu d'être absolument objectif et ensuite libre à chacun de l'interpréter comme il le souhaite. On sait que les chiffres peuvent être interprétés des moins comme des plus. Le monde des startups nous montre que une entreprise en déficit peut souvent être valorisée très très cher. Donc vous voyez que le chiffre, qu'il y ait un moins ou un plus devant, c'est selon l'intérêt de chacun qu'on va l'interpréter. Donc nous, on milite énormément au cabinet et puis à l'Université de Nice pour cette production d'une norme comptable. Je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire, qui va venir clarifier et rendre effectivement très opérationnel le combat international.
Merci beaucoup, Xavier. Merci, Madeleine. Merci, Clément. Merci pour votre participation active, c'était passionnant, comme toutes ces tables rondes, on peut les applaudir, évidemment.